Vous écoutez Toute une histoire, d'après le recueil Le jour de la fabrication des yeux de Philippe Dorin, enregistré à l'auditorium de l'école municipale de musique d'Erstein. Épisode 1, Lego. La tente Blanchette, c'est une vraie pièce de musée. Avec toutes les broches et les vis qu'on lui a plantées un peu partout dans le corps, sa pile pour le cœur et sa belle brochette de dents en porcelaine, elle est un des derniers vestiges de l'ancien temps, une des seules rescapées des années 1880 et quelques. Les médecins qui la soignent disent que c'est un miracle qu'elle tienne encore debout. Pour la protéger au maximum de l'érosion du temps, les parents de Pierre l'ont isolée au bout de l'appartement, dans une petite chambre au fond du couloir où la lumière du jour n'est pas trop forte. Après l'avoir bien calée entre deux coussins dans un fauteuil, ils lui ont enroulé les pieds dans une couverture chauffante, coincé un petit poste de radio entre les mains pour qu'elle puisse encore écouter ses jeux des 1000 francs. Et ils sont sortis sur la pointe des pieds en chassant Pierre et ses Indiens dans la chambre à l'opposé. Oust ! Ainsi, le dos à la porte, le visage tourné vers la fenêtre donnant sur un petit parc coincé entre deux tours, la tente Blanchette se trouve à l'abri du bruit et des courants d'air. Immobile, sans pouvoir distinguer le jour de la nuit, son regard semble perdu dans le crépuscule éternel. Et pourtant, quand Pierre grimpe dans l'unique arbre du square pour apercevoir le visage de sa tante derrière la vitre embuée, ce regard semble lui dire « T'es gonflé, tu me laisses tomber comme une vieille chaussette. » C'est vrai qu'elle pourrait faire un sacré compagnon de jeu, pense Pierre du haut de son arbre. Avec ses barres de fer dans les jambes, un puissant chevalier, ses micros et ses haut-parleurs dans les oreilles, une redoutable espionne. Ses pierres et son métal précieux dans les genoux et la bouche. La caverne d'Ali Baba. Quel gâchis. Alors, Pierre noue son mouchoir autour d'une branche en guise de message pour montrer à sa tante qu'il ne l'oublie pas, malgré les Indiens muets et les jeux de ballons interdits dans le couloir. Un soir, pourtant, Pierre remarque une drôle d'agitation à l'intérieur de l'appartement habituellement si calme. Et vlan ! Son père distrait claque la porte d'entrée au retour du boulot. Et gligne ! Sa mère laisse tomber un verre sur le carrelage de la cuisine en mettant le couvert. Bizarre, ça ne leur ressemble pas. Eux si à cheval, question bruit dans la maison. Pierre se sent même obligé de rappeler ses parents à l'ordre. « Et pensez un peu à la tante !»« Ce soir, mon petit, ta mère et moi, pom 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 pom, on sort. »« Pour une fois, ce soir, ton père et moi, mon petit, et un, deux, trois, on va danser. » En trois coups de valse, le repas est balayé, la vaisselle liquidée et la toilette expédiée sur un air de tango tango. Costume nickel, petit coup d'œil dans la glace, zip zip, gaz coupé et hop, les parents se précipitent dans la cage d'escalier avant même que Pierre n'ait eu le temps d'en placer une. Ah oui, j'oubliais, c'est toi qui gardes la tante Blanchette bien entendu. Tu lui dois bien ça, qu'est-ce qu'elle a pu te bercer quand tu étais petit, des nuits entières, vénard. Pas de ramdam, compris? Ne va pas te frotter contre la porte de sa chambre, je te connais. Un seul choc et couic, la tante. Le père passe la main devant sa gorge en tirant la langue. « Pas de risque !» répond Pierre en prenant son air responsable des grands jours. « J'ai justement un grave problème de l'ego à résoudre. » Rassurés, les parents dévalent l'escalier en braillant une vieille Java. L'aubaine. Une fois seul, Pierre s'empresse d'aller voir à la porte de la tante. Officiellement, pour s'assurer que tout va bien, il s'agit d'être consciencieux, mais en espérant secrètement trouver un truc qui cloche pour lui rendre une petite visite. À travers le trou de la serrure, Pierre distingue mal, dans l'obscurité, la lourde silhouette de la vieille femme au milieu des autres meubles de la chambre. Petit à petit, elle semble apparaître dans l'encadrement de la fenêtre, pareil à un gros bahut. Tiens, moi je trouve qu'elle penche d'un côté, se dit Pierre. Pas normal, ça. Afin d'inventer une excuse sérieuse pour pénétrer dans la chambre, Pierre décide d'une tournée médicaments, comme à l'hôpital, quoi, et file chercher dans son stock de friandises la boîte de bonbons qui ressemble à de belles petites pilules rondes et colorées. Dans le silence le plus total, il entre dans la pièce. Pas le moindre petit grouille de coincé dans la porte. Pas une lame de parquet qui gémit. Les parents ont tout prévu. Il se retrouve dans le dos de sa tante, l'ordonnance dans la poche, le traitement à moitié dans les mains, à moitié dans la bouche. Quand tout à coup, il sent une bouffée de chaleur lui monter au visage. Oh, mon Dieu! Elle va avoir une de ces trouilles, la tante, de me voir dans son dos. Elle qui ne reçoit jamais personne, quel choc. Oh bon sang, j'aurais dû frapper, trop tard. Oh, il ne s'agit pas que Quick. Pour lui montrer qu'il est là, sans vraiment lui montrer qu'il est là, Pierre fait entendre un léger raclement de gorge, un petit... de rien du tout. Imperceptible, mais qui suffit à provoquer dans la pièce où l'atmosphère est si étouffée l'effet du tonnerre. Pierre lui-même sursaute un peu. Quant à la tante, elle fait un bond, un de ces bonds qui la fait décoller comme une fusée de son fauteuil, cogner le plafond, rebondir contre la vieille horloge déglinguée qui se met soudain à sonner minuit déjà et retomber enfin en mille morceaux sur le parquet dans un fracas interminable de piles et de piles d'assiettes qui se brisent. Impuissant, Pierre tend désespérément les bras de tous côtés en espérant rattraper un bout de la tente au vol afin de limiter les dégâts, mais seul le petit poste de radio lui retombe dans les mains, intact, débitant à tue-tête les résultats des derniers matchs de championnat. 2-0, 6-1, 2-3, défaite à domicile, comme pour applaudir au spectacle. Et Quick laisse échapper Pierre en constatant le désastre. Il sent déjà les deux paires d'yeux tranchants de ses parents s'abattre sur lui, la dérouillée monumentale dont il va écoper et les explications qu'il faudra fournir au lever du jour. Il cherche, il se gratte la tête pour trouver l'histoire la moins difficile à avaler, celle qui adoucira la colère d'un seul petit doigt d'une gifle. Faire l'innocent, celui qui n'a rien vu, rien entendu, et suggérer qu'un avion aurait fait trembler tout l'immeuble en franchissant le mur du son. Oui, mais Comment expliquer qu'à part la tente, tout soit resté intact dans l'appartement ? Les verres de cristal qui ne servent jamais à cause de leur fragilité, les bibelots chinois dont Pierre doit toujours se tenir à 3 mètres de distance au moins, les tableaux qui penchent tout le temps et ce soir si désespérément droit. Alors, ramasser les morceaux, tout jeter à la poubelle, faire le ménage de la chambre à fond et dire que... la tante a décidé de s'en aller, comme ça, caprice de vieille. L'inconvénient, c'est que les parents vont tout de suite partir à sa recherche. Et une tante dans cet état, soit ça se rattrape vite, soit ça n'est jamais parti. Non. Recoller, réassembler, visser, scotcher, attacher le tout dans le fauteuil, comme avant. De toute façon, il n'y entre jamais dans cette chambre. Juste un petit coup d'œil, de temps en temps, ça va, Blanchette, besoin de rien, pour dire. Il suffit que la silhouette coïncide un peu, ni vue ni connue. Adopté. Aussitôt, Pierre fouille dans les tiroirs de la commode à la recherche de l'imposant dossier médical de la vieille femme en espérant y dénicher une fiche technique, un plan de montage. Mais les médecins gardent jalousement leur secret, rien que des piles d'ordonnances à l'écriture illisible et au vocabulaire codé. Alors, armé d'un tube de colle et d'un tournevis, Pierre se met à réparer sa tente au pif de mémoire, un peu comme il croit, un peu comme il aurait voulu qu'elle soit, moitié chevalier, moitié espionne. Bien sûr, il ne remet pas tout dans le bon ordre et à la bonne place. Il prend les pièces comme elles viennent et s'amuse à faire des formes qui lui rappellent tantôt un château, tantôt un animal légendaire, tantôt un véhicule de chasse. Mais il serre bien fort les boulons. Il n'hésite pas à mettre double ou triple épaisseur de colle. Il vérifie un à un tous les morceaux une fois qu'ils sont en place. Il s'agit que ça tienne. Pour finir, il lui ajoute une touche de vernis sur les ongles et lui fait 2 couettes dans les cheveux avec ses mouchoirs. Des choses simples auxquelles les médecins ne pensent jamais, juste pour la beauté. Mais... au moment d'installer la tente dans son fauteuil, Pierre s'aperçoit qu'elle ne tient plus en place. Oh, trop large. Oh, je l'ai vue trop large. Il insiste, coince des cales, scotche largement, mais à chaque fois, la tente sort du fauteuil comme pour lui résister. Allons, un petit effort, tante Blanchette. Si tu crois que je vais rester clouée ici comme avant, mon petit, tu te trompes. Grâce à tes dons de bricoleur, j'ai retrouvé goût à la vie. D'un coup de coude, elle envoie valser Pierre contre l'horloge, qui se remet à sonner minuit encore, coupe le sifflet de son poste de radio en le traitant de radoteur, prend ses jambes à son cou et s'enfuit hors de la chambre. Quand il reprend ses esprits, Pierre la retrouve à la cuisine. Le nez dans le frigo, elle est en train de dévorer le bon gigot et la tarte aux fruits du lendemain dimanche. J'ai l'estomac dans les talons. En tout cas, tu n'as pas ta langue dans ta poche insolente, répond Pierre, qui file chercher son tournevis afin de remédier aux erreurs de montage qu'il a pu faire, emporté par l'inspiration. Mais la tante Blanchette ne se laisse plus approcher aussi facilement. Elle esquive chaque coup que Pierre tente de lui porter, en se réfugiant sous la table, en grimpant sur le buffet, en lui jetant les chaises et la vaisselle au visage pour le faire reculer. Maintenant, elle possède l'adresse d'un vrai chevalier. Ses couettes se dressent au-dessus de sa tête comme un panache blanc. Alors, Pierre décide d'employer les grands moyens. Il enfile son attirail d'indien, fait un petit feu pour envoyer des signaux de fumée à tous ses jouets bruyants consignés en haut des armoires et empoisonne le bout de son tournevis avec de la confiture de groseille. Dans l'appartement, la guerre est déclarée. La tante Blanchette fait de la cuisine son quartier général. Pierre de sa chambre, le sien. De là, ils lancent ensemble des attaques dans le salon. La tante investit le hall d'entrée au lieu stratégique. Pierre l'assiège dans le couloir. Bataille navale dans la salle de bain. Guerre chimique dans les placards où sont stockés les produits d'entretien. Guerre d'usure dans les toilettes. Guerre froide dans la chambre feutrée des parents où les deux combattants se sont réfugiés, tels des agents secrets, se surveillant l'un l'autre, passant discrètement de la penderie sombre sous les couvertures épaisses du lit pour se murmurer des messages codés. Et pour finir, armistice dans le bureau, sous les 12 coups de l'horloge qui sonne minuit juste, enfin. Pour signer cette longue ère de paix qui s'ouvre devant eux, la tante Blanchette conduit Pierre dans sa chambre. Elle lui glisse de vieilles images dans les poches, des photos qu'elle cachait derrière les plaintes, et remplit ses bras de précieux bibelots ayant appartenu à ses ancêtres et qu'elle dissimulait dans les tiroirs à double fond sous l'imposant dossier médical. En échange de sa liberté qu'elle lui fait signer sur un bout de papier, elle lui raconte des légendes de l'ancien temps, autour des années 1880 et quelques. Elle est assise dans son fauteuil. Pierre se blottit dans ses bras. Il ne tarde pas à s'endormir. Doucement, la tante se lève. Elle emporte Pierre dans son lit en prenant garde de ne pas le réveiller. Puis, elle ramasse tous les Legos, tous les clipots, tous les mécanos qu'elle peut trouver dans la pièce et elle rejoint sa chambre. Avec la patience d'un enfant, elle assemble un à un tous les éléments colorés pour en faire une statue. Une tente Blanchette en plastique grandeur nature avec des pommettes bien anguleuses et un cœur bleu en forme de cube. Elle installe sa construction confortablement entre deux coussins dans le fauteuil, lui enroule les pieds dans la couverture chauffante et lui coince le petit poste de radio entre les mains. Puis, elle ouvre la fenêtre et saute dans le petit parc. Elle dénoue le mouchoir de Pierre sur la branche de l'arbre et disparaît juste avant le lever du soleil. Pierre se réveille en sursaut. Ses parents, malgré leurs traits tirés, le fixent d'un air sombre. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Ne va pas accuser ta tante ! Oh, mon Dieu, la tante !» En se frayant un chemin à travers le désordre du couloir, les parents s'approchent de la chambre de la vieille femme. Retenant leur souffle, ils ouvrent doucement la porte. « Ça va, Blanchette ? Besoin de rien ?» Dans la pénombre, la tante en Lego ne répond pas. Immobile, son regard semble perdu dans le crépuscule éternel avec pour seule compagnie la voix douce du petit poste de radio qui diffuse sa traditionnelle émission du dimanche matin sur les jardins.
Intact, la tante. Tu as eu de la chance, mon petit. Mais tu ne couperas pas au ménage pour autant.
Pendant que ses parents font la grasse matinée, Pierre nettoie le champ de bataille.
s'arrêtant sur chaque objet cassé, sur chaque tache qui sont autant de souvenirs de la folle nuit, de petits monuments aux morts. Au moment où il repose le balai et la serpillière, une petite vis apparaît sous la porte de la chambre de la tante Blanchette et vient rouler à ses pieds. La vis qui tenait la vieille femme clouée à son fauteuil et que Pierre n'avait pas remise.
Vous venez d'écouter Toute une histoire, épisode 1, Lego, un podcast proposé par la compagnie Actemo Théâtre et le Relais culturel d'Erstein, en partenariat avec l'École municipale de musique.